Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Par les temps qui courent. Chaque soir, un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, avec l'écrivain Simonetta Greggio.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te bien.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce n'est pas toujours simple de vivre une vie, mais ça se vit. Ça finit toujours par se vivre, une vie. En revanche, pour ce qui est de la raconter, c'est une autre tâche. Peut-être faut-il toujours partir du principe qu'une vie ne se raconte pas, que toujours ça déborde, et d'autant plus volontiers que la vie en question a été débordante. Alors il faut dire où elle se cogne, les impacts, les rencontres, les chutes, et aussi se pencher sur les toutes petites choses, un coquillage, la météo d'un matin, les mots qu'on prononce un jour et ce qu'on écrit un autre. C'est le pari de votre dernier livre, Simonetta Greggio, qui n'essaie pas d'embrasser la totalité de la vie d'écrivain et de femme d'Elsa Morante, mais qui fonctionne à la façon d'un miroir brisé, reflétant plus ou moins déformé des éclats d'existence. Elsa Mon Amour paraît en cette rentrée aux éditions Flammarion et n'interroge pas seulement les reflets mensongers de l'identité, il raconte aussi la rivalité entre les hommes et les femmes, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, la place de l'admiration dans l'amour, la déception et l'amitié, dont la trace est peut-être plus grande et plus tenace qu'on ne le croit. Simonetta Greggio, votre roman fait partie de la sélection France Culture L'Obs pour cette rentrée 2018. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie, merci.
Avec plaisir. À quoi ça ressemble le moment, cette fameuse rentrée littéraire, ou en tout cas peut-être le moment singulier où le livre arrive sur les tables des autres, sur les tables de chevet, sur les tables des libraires, en tout cas dans le camp des lecteurs?
C'est ce que vous dites, la vie doit être vécue, donc c'est toujours un moment assez curieux qui me rend toujours très perplexe, parce que je vis la plupart du temps dans l'ombre de ma maison protectrice, dans mon jardin protecteur, et tout d'un coup il faut parler, il faut s'expliquer, il faut raconter, il faut s'exposer, il faut se maquiller avant de venir à la radio, ce qu'on faisait pas autrefois, il faut faire plein de choses que on ne fait pas quand on est sur sa table de travail et confronté à ce qu'on aime le plus finalement, c'est la bagarre réelle avec les mots.
Ça vous rend perplexe? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, devoir parler de vos livres, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous passeriez volontiers?
Non, j'adore ça, j'aime infiniment ça, mais c'est un autre métier, c'est pas le même. Alors j'aime ça parce que j'ai l'impression que sortir au soleil, ça donne une énorme vitalité, une énergie extraordinaire, et puis on se met vraiment en danger, et puis c'est vraiment la vie, quoi. C'est vraiment ces deux choses, c'est à la fois lâcher le feu de la cheminée l'hiver et cette espèce de folie où on danse sur la plage l'été.
La bagarre avec le réel des mots, c'est moins la vie? Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est un peu plus retiré de l'existence dans l'écriture?
Non, absolument pas. Je pense que c'est presque la seule vie même. Le reste est presque miroir et illusion. Tout ce qui n'est que vanité, une rentrée c'est beaucoup de vanité quand même. Ben, vous voyez, quand vous êtes chez des amis et il y a des vieilles bibliothèques et vous mettez la main là-dedans parce que visiblement vous pouvez pas vous passer de lire, même si vous avez terminé tous vos livres que vous aviez dans votre valise, et vous avez des vieux Goncourt, des vieux Féminin, des vieux Renaudot et tout ça, et c'est tellement, la poussière s'est déposée là-dessus, c'est tellement à la fois merveilleusement mélancolique et tellement génial, on vous oublie. Vous avez le droit à l'oubli, ou on ne vous oublie pas, et c'est merveilleux quand même, mais quoi qu'il en soit, la messe est un peu dite. Quelle merveille!
En tout cas, la poussière ne s'est déposée que partiellement sur le gros pavé de la Storia d'Elsa Morante et les autres livres avec lesquels vous avez un compagnonnage depuis, je ne sais pas si c'est depuis toujours, en tout cas, depuis toujours, vous dites lire Elsa Morante. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez dans votre cœur ou votre ventre ce roman Elsa, mon amour ?
Non, ça s'est passé de manière assez curieuse parce que Elsa Morante, que j'ai toujours reconnue comme une très grande écrivain, avait une écriture qui pour moi était trop grave. J'aime les écrivains plus légers, non pas légers parce qu'ils sont dans la futilité,
mais légers dans le verbe.
Voilà, c'est ça. J'aime Truman Capote et j'aime Fitzgerald. À Elsa, elle reconnaissait elle-même cette lourdeur. D'ailleurs, Simone Veil était l'une de ses saintes laïques. Et donc, c'était moins quelqu'un sur qui j'avais envie d'écrire. Et en même temps, lorsqu'un matin c'est sorti un peu comme ça, un peu de nulle part, pourquoi pas parler d'elle ? J'ai senti ça immédiatement comme une évidence. On en a parlé avec mon éditeur Guillaume Robert à une table de café. Et c'était vraiment ce pourquoi pas elle ? Parce que elle est là et elle attend que quelqu'un lui redonne du souffle. Et hier, quand je l'ai vue à la une d'un journal, d'un quotidien, j'étais tellement émue. Et plus pour elle que pour moi. Parce que 35 ans après sa mort, elle fait la une d'un quotidien et ça c'est une justice extraordinaire qui lui est rendue.
Et puis pourquoi pas elle, on va avoir une heure pour en parler, mais peut-être aussi parce qu'elle vous permet tout simplement d'écrire d'autres choses que la vie d'Elsa Morante, mais on va l'écouter quand même.
C'est vrai que vous avez appris à lire, à écrire toute seule
Seule. Ma mère était... Comment ça s'appelle, maestra.
Maîtresse d'école.
D'école pour petits. Oui. Mais elle ne pouvait pas. J'ai commencé à écrire à 4 ans.
À 4 ans?
Oui. Mais la première poème, je l'ai fait quand je ne savais pas d'écrire.
Et c'est très beau. À 2 ans et demi, quand vous étiez amoureuse du garçon de.
Ah oui, de mais ce n'est pas un poème d'amour, c'est un poème de tragédie. Parce qu'il dit. Un povero galletto che stava alla finestra, gli casca giù la testa e va, e va, e va.
Bello.
Un gallo piccolino che stava alla finestra, gli casca giù la testa e non vede più e più. E potete siete in profezia.
C'est
beau, oui, oui. Ah, non, c'est pas beau.
Le dice. Dans le sens de prophétie aussi, je veux dire.
De prophétie, oui.
C'est vous le petit coq.
Je ne sais pas si j'étais le petit coq, mais mon premier poème, c'était là.
L'enfant, tête baissée, poings fermés, pouce tourné vers l'intérieur, hanche ceinte d'un tissu usé par l'été, debout dans le sable, l'enfant regarde quelque chose, l'observe longtemps sans bouger. Toile d'écume autour des orteils, il reste immobile, vague mourante à ses pieds. Puis il se penche, ondule dans la brise, faisceau d'herbe foulé. Un banc de poissons froisse le pli de l'eau. D'entre les algues, un crabe surgit. L'enfant pose l'orteil devant lui. Pince en l'air, le crabe défie l'enfant qui rit puis s'accroupit. Genoux à terre, lèvres serrées, yeux rétrécis. Maigres épaules brunies, ailes repliées. Un souffle d'air argente ses tempes, fouille le duvet de ses mollets. Après, c'est le soir. Et le vent qui tombe et les cris des adultes qui le cherchent. À la voix qui l'appelle, l'enfant ne répond pas. La voix reprend. « Que fais-tu là, Elsa ? C'est un jeu ?» Elsa lève les yeux. Ils sont verts ou violets. Elle répond. « C'est un secret. » On commence avec un peu d'été et aussi la voix d'Elsa Morante dans cette archive tirée des Nuits magnétiques diffusée en 1985 sur France Culture, Simonetta Greggio. Il y a aussi de l'été et du soleil dans la voix qu'on entendait dans cette archive. Ça vous fait quoi d'entendre la voix
ça
de cette femme?
Ça me fait penser aux journaux qu'elle a malheureusement fait brûler ou brûler. Ou peut-être qu'il existe toujours, va savoir. Il y a peut-être des archives secrètes Elsa, j'adorerais ça. Ça me fait penser à un été qui était magnifique pour elle, peut-être un été de sommet de sa vie, où elle dit, à la fin de l'été, elle dit, cet été a été un été sublime de petites tomates et de polpettielles, et donc de petits poulpes grillés, elle était très gourmande. J'ai dit adieu à l'été et peut-être à la jeunesse. Et cette je ne sais pas, c'est un peu ce que vous disiez au départ, cette vie qu'il faut vivre tous les jours, et tous les jours on sait que ça ne sera plus jamais pareil, et qu'on la rêve plus qu'on la vit. Cette vie dont Elsa était si friande, et en même temps qui a été dure pour elle, tragique, parce que ce pli de gravité qu'elle avait était la portée vers le fond. Et je sais, par des amis qui la connaissaient bien, cette fin de vie que j'ai totalement changée dans le livre, lui donnant une fin de vie dans un jardin, chose qu'elle aurait absolument imaginée et voulu pour elle, et que j'imagine et que je veux pour moi. Mais elle criait dans la clinique, elle criait qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait pas être vieille, elle ne voulait pas mourir, elle ne voulait pas s'arrêter. Elle n'avait pas fait la moitié du quart de ce qu'elle avait envie de faire. Et écrivant ces livres, j'ai eu l'impression de lui redonner comme un deuxième souffle, une deuxième chance, et peut-être à moi aussi.
Et quelque chose de l'ordre de la jeunesse, pour ne pas dire de l'ordre de l'enfance. Vous disiez qu'elle était friande de la vie, et parfois, à vous lire, on a l'impression qu'elle se logeait dans ces endroits-là, dans ces endroits de l'invention, du jeu de l'enfance, d'un crabe qu'on regarde sortir du sable au bord de l'eau, de la manière dont on répond aux adultes, c'est un secret. Allez tous vous faire voir, j'ai autre chose à faire que de répondre à vos questions et à vos appels. Elle disait qu'elle adorait les enfants, qu'on était en train de les détruire, mais que c'était vers eux qu'il fallait aller. Elle a même écrit un recueil de poèmes et de chansons qui disait « Le monde sauvé par les gamins ». Vous choisissez de peindre quelques petites vignettes de son enfance. Vous êtes allé les chercher où ? Sinon dans votre tête.
Dans toutes ses correspondances d'abord. Et puis elle a écrit un petit livre absolument délicieux sur son enfance, sur son maître d'école, sur sa mère, sur ses frères. Et c'est déjà... elle est tellement fraîche quand elle dit les choses. Elle est tellement... C'est une femme qui détestait le mensonge. Et donc elle était même très crue et très aiguë et très insupportable de lucidité. Mais elle l'était vis-à-vis d'elle-même aussi. Donc ces quelques fragments d'enfance sont d'une brutalité et d'une fraîcheur. Vous savez, c'est vraiment nous, on avait une espèce de boisson l'été qui s'appelle le quinotto. Ça n'existe plus, ça existe à peine. Mais vous savez, c'était très amer. Et quand on le buvait très frais, c'était juste comme une asferzata, c'était un coup de vague. Et elle, quand elle écrit, c'est vraiment ça, cette amertume très vivifiante. Et dans ses poèmes, Il mondo salvato dai ragazzini, j'ai découvert que des jeunes gens, aujourd'hui, qui ont 20-25 ans, adorent
ce
poème.
Le monde sauvé par les gamins.
Ah oui, c'est comme si on avait réinventé, on avait donné un coup de roc à cette Elsa qui s'est éteinte avec tellement d'amertume et de rage, de colère.
Dans cette archive, le journaliste, ou je crois que c'est peut-être son traducteur d'ailleurs, qui l'interroge sur l'origine de l'écriture. Est-ce que c'est vrai que vous avez appris à lire et à écrire toute seule ? Est-ce que c'est vrai que finalement, depuis toujours, vous êtes un être qui écrit ? Elle semble répondre que oui, qu'il y avait quelque chose qui préexistait en elle de l'écriture. Simonetta Greggio, est-ce qu'il faut lui faire confiance quand elle dit ça ?
Alors, non seulement il faut faire confiance à Elsa, parce qu'elle est vraiment toujours dans la vérité, mais vous avez vu avec quel rire dans la gorge elle répond, comme elle est contente qu'on lui demande ça, parce qu'elle passait quand même son temps penchée sur ses écritures, mais totalement échevelée, totalement... on est malade quand même, quand après 8 heures d'écriture, on a mal au dos, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes, on a mal à la tête, on a mal partout. Et tout d'un coup, on vous demande comment vous écrivez, c'est tellement... drôle et sympathique et charmant de s'ouvrir de nouveau à la vie. Mais Elsa était parfaitement au courant d'être une sourdouée. C'était un génie. Elle savait que c'était un génie. Elle ne savait juste pas comment faire en sorte que les autres le sachent.
Mais ils l'ont su. On parlera tout à l'heure de Moravia, mais elle a été reconnue comme telle, comme un écrivain.
Vous savez, quand elle a écrit La Storia, qu'il y a eu ce manifesto degli intellettuali, ma quali intellettuali, qui ont crié contre ce livre en disant que c'était misérabiliste, que c'était le pire qu'on puisse faire dans la mauvaise foi de la pauvreté, et comment on allait fouiller dans la pauvreté des gens pour aller finalement gagner de l'argent sur leur peau.
Ce qui n'exclut pas le génie, le scandale n'exclut pas le génie.
Certes non, mais là elle avait été traitée carrément de mauvais écrivain.
Et parfois par ses amis les plus proches.
Par ses amis les plus proches, dont Pasolini, qui n'a pas signé ce manifeste, mais qui a écrit une critique extrêmement mauvaise, méchante. Mais là, c'était autre chose. C'est-à-dire que Pasolini était fou de rage contre Elsa, dont il était quand même le meilleur ami. Parce qu'Elsa lui avait dit, lorsque Ninetto d'Avoli l'avait quitté pour une femme.
Donc l'ami amant de Pasolini.
Voilà, c'était son ami du cœur, c'était son amoureux, c'était vraiment l'homme pour lequel, le garçon pour lequel il avait construit des films, comme des cadeaux, comme des auréoles. Et Elsa lui avait dit, mais si on aime quelqu'un, il faut vouloir son bien. Et si son bien, c'est d'aimer une femme, tu dois aimer son bien. Et Pasolini lui avait répondu, va te faire voir.
C'était assez difficile à entendre. Voilà. On reviendra sur Pasolini tout à l'heure, mais pour rester sur l'enfance d'Elsa, on parle de son enfance presque comme l'enfance de l'art, l'origine de l'écriture. Il y a aussi l'origine de l'amour. Vous la dépeignez, Simonetta Greggio, comme une enfant qui est capable d'écrire les mots d'amour les plus absolus à un âge où on n'a même pas 10 années et 10 bougies à souffler sur un gâteau. Ça fait d'elle, dès le départ de votre roman, une femme ou un être, parfois je me suis demandé si c'était si important qu'elle soit une femme, qui risquait tout dans l'amour, dès le départ, dès la prime enfance.
Écoutez, j'imagine que si nous sommes là toutes les deux aujourd'hui, ce soir, c'est parce que nous avons quelque chose qui a à voir avec ça. C'est-à-dire que finalement, trouver sa vie, c'est la risquer tous les jours. Elsa, c'est ce qu'elle faisait. Elle mettait sur la table, à chaque amour, elle mettait tout sur la table. Et puis, souvenez-vous, moi, je m'en souviens, mon premier amour, j'avais 3 ans. J'étais tellement, mais je voulais me suicider quand c'était un amour de vacances. J'étais aussi amoureuse de lui, il faut dire, que de sa mère. Lui, il avait 4 ans. Sa mère était sublime. Et je me souviens de ce petit garçon qui s'appelait Armando, qui était derrière moi, derrière mes épaules, dans la chambre de sa mère. Sa mère, elle s'en fichait d'avoir des petits-enfants à côté d'elle, donc elle se déshabillait, elle se coiffait, etc. Et nous étions tous les deux là en train de regarder cette femme. Alors quel est cet amour incroyable dont je me souviens et qui m'a donné envie de me suicider à 3 ans quand le petit garçon est parti à la fin des vacances?
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si un jour vous vous dites pourquoi pas elle, pourquoi pas Elsa Morante, c'est d'une part parce qu'elle polarise votre attention depuis longtemps, votre attention de lectrice, mais aussi parce qu'elle vous permet de glisser des choses de votre absolu à vous, Simonetta Greggio.
Parce que c'est un vrai défi, parce que son écriture étant si différente de la mienne, ou si différente de ce que j'aime dans l'écriture profondément, et en même temps sachant à quel point elle est grandissime, c'est quelque chose qui me permet à la fois d'être dans l'écriture, ce que j'aime le plus au monde, et en même temps d'être critique par rapport à l'écriture, ce que j'aime aussi. Donc je suis critique par rapport à la sienne, je suis critique par rapport à la mienne, j'ai cette distance. Vous savez, je ne sais plus qui m'a raconté que les pingouins ne peuvent pas s'approcher plus d'un certain écart entre leur poitrine, parce que dans leur poitrine, il y a une sorte de, il y a 5 cm de duvet qui fait qu'il faut que ça reste leur territoire. Et sinon, ils deviennent extrêmement agressifs vis-à-vis de cet agresseur qui entre dans leur poitrine. Et bien, pour un écrivain, pour moi, pour Elsa, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que c'est duvet qui protège le noyau. Et le noyau, c'est qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit ce qu'on veut, elle, ça a été très fluide. Eh bien, ces noyaux, c'est l'écriture. Et c'est, je pense, là, pour un écrivain, ce qui transcende tout. Vous êtes capable de quitter quelqu'un, vous êtes capable de quitter un amour, un mariage, des vacances, parce que vous avez un livre à écrire. Un livre qui sera ensuite dans des étagères, plein de poussière, oublié. On s'en fiche. Mais il faut le faire.
Sur la question du langage, puisque vous dites que finalement, vous parliez tout à l'heure de bagarre avec le réel des mots pour parler d'Elsa Morante. Et là, vous dites à quel point il est question pour vous d'être intransigeante avec votre propre langue. On l'entendait dans l'extrait que je viens de lire, Simonetta Greggio. Ça fonctionne beaucoup là aussi, comme les éclats d'un miroir brisé. Les phrases sont saccadées sur des propositions parfois courtes. Comme si vous proposiez à l'intérieur même de vos phrases une sorte de construction cubiste. On peut voir les choses avec plein d'angles différents. En quoi cette langue-là, cette littérature, elle diffère tant d'Elsa Morante?
Je pense qu'il y a eu dans l'écriture une évolution. Je suis une fan absolue de John Didion. Et John Didion vous suggère de penser peut-être quelque chose à laquelle vous n'auriez pas pensé toute seule. Et je pense que c'est là, finalement, dans le grand mystère de du questionnement du livre, des phrases que vous êtes en train de lire, que réside aujourd'hui le pouvoir réel d'une écriture, alors post-contemporaine, je m'en fous, moderne, je m'en fous, mais d'aujourd'hui. Elsa travaillait avec des outils, des moyens qui étaient ceux de son époque. Elle était totalement à la pointe de son époque, la preuve c'est qu'elle est toujours là. Mais quand je lis Joan Didion, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, plus presque dans le subliminal que dans le dit. Et c'est bien cette gravité ou cette lourdeur, c'était Elsa elle-même qui parlait de lourdeur.
De sa propre écriture.
De sa propre écriture et même de sa propre vie. Et c'est cette lourdeur finalement qui lui donne cette espèce d'enracinement incroyable. Et en même temps, il faut quand même aller plus vers le ciel, donc plus vers un côté totalement aérien que peut avoir Joan Didion. Et c'est ces deux pôles, pour moi, d'écriture qui m'intéressent.
C'est difficile, vous savez, c'est très difficile. Être célèbre, vouloir aussi être toute petite comme petite élève.
Autrement dit, la personne peut-être qui peut vous donner des conseils, non seulement il faut qu'elle en soit capable sur le plan technique et artistique,
il faut qu'elle vous aime beaucoup aussi, avec tout son cœur, pour essayer
de comprendre le moment où elle pourra vous le dire. Est-ce que vous croyez que vous avez eu besoin de beaucoup plus de volonté et d'une certaine manière de vous bâtir en acier, justement, pour à la fois être ce que vous vouliez être dans votre art et rester en même temps une femme?
Mais oui, sûrement, mais vous savez ça, vous dites volonté, c'est pas seulement volonté, je crois pas que c'est même volonté, c'est se défendre, ma chère. Parce que dans la vie, toute femme et homme doit se défendre. Il y a celles qui peuvent se défendre mieux, celles qui ne peuvent pas se défendre parce qu'ils sont faibles et ils sont nés comme ça. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir me défendre. Évidemment, ça coûte. Parce que voilà l'autre côté, la femme, qui dit, mais pourquoi je dois me défendre comme ça? Pourquoi je dois me battre tellement? Qu'est-ce que j'ai fait? Au fond, je fais une carrière, j'essaye de donner le mieux de moi-même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas me faire un coupable de ça. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de la haine pour moi.
En vous voyant, il est bien évident que vous aimez la vie telle qu'elle est, mais j'ai l'impression que vous la voyez avec une assez dure lucidité quand même. Vous n'avez guère d'illusions, ni sur l'être humain, ni sur la vie.
Non, je n'ai pas d'illusions, malheureusement. Et voilà ce que je veux dire. Après 40 ans, on n'a pas beaucoup d'illusions. Et surtout, moi j'ai une côté qui est très poétique, évidemment, que je cache tout le monde là, je crois. Petit monde à nous-mêmes. Petit coin là, que tout est beau, tout est loyal, tout est merveilleux. Et alors, on croyait qu'il existait quelque part. Maintenant, on sait qu'on l'a créé dans le cervelle, ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup d'autres jolies choses que j'ai jamais vues avant avec l'œil lucide. Le public que ne te connaît pas, que ne connaît rien de tout ça, et comprend tout ce que tu passes, c'est drôle. Et il est là pourtant, pour t'aider. Même s'il ne te voit pas, il t'écrit, il t'achète des disques, il vient te voir, il te fait des fêtes. Ça, je n'avais pas donné d'attention avant.
Ça, c'est au crédit de la vie,
Au crédit de la vie. Il y a des amis que tu prends, par exemple, comme tu es. Moi, je suis une grande amie, mais malheureusement, je ne suis pas une type qui se manifeste beaucoup, disons, avec des choses comme les autres, d'être toujours présente, de faire des coups de téléphone, de voir souvent les amis. Et ça, je connais très bien mon caractère. Je vois aussi des défauts. Et malgré ça, mes amis m'aiment, tels que je suis. Ils me voient quand je veux, ils ne me voient pas quand je ne veux pas. Et peut-être ils se fâchent des fois, mais ils ne le montrent pas. Il y a tout, petites choses dans la vie qu'on comprend maintenant, qu'on ne comprenait pas avant.
On pourrait l'écouter assez longtemps, Maria Callas, une archive de 1965 au micro de Micheline Banzet. C'était très étonnant hier quand nous écoutions toutes ces archives pour préparer l'émission avec vous, Simonetta Greggio, d'entendre la Callas parce qu'elle agissait elle aussi comme une sorte de miroir tendu à Elsa Morente. Dans ce qu'elle dit dans cette archive, le rapport à la vie, le rapport au secret, ce petit monde qu'elle dit avec son accent, ce petit monde qui existe en nous et dont on pensait qu'il existait quelque part avant de réaliser qu'en fait on l'a créé avec son cerveau, le rapport à l'amitié, à la solitude. C'est drôle, vous l'entendez de la même manière, vous?
Je pense à cette Maria Callas qui était aussi une amie pas proche, mais quand même de Elsa Morente, parce que Maria Callas était curieusement amoureuse des mêmes hommes. Qu'Elsa, elle avait le même problème par rapport à sa féminité, pas d'enfants, des maris qui sont pas forcément les bons, et surtout des amours qui sont impossibles, parce que Pasolini était fou amoureux d'elle, mais il était homosexuel, et donc voilà, mais vraiment il n'était pas fluide, il était vraiment vraiment seulement homosexuel. Visconti, il pouvait à la rigueur avoir une amante, comme il a eu dans la personne d'Elsa, mais c'était des hommes qui étaient finalement fermés à cette sensualité féminine et même en refus de cette sensualité féminine. Donc c'est drôle, cette espèce de vrai faux miroir entre Callas et Elsa, deux femmes qui ont voulu être les plus grandes possibles et deux femmes qui ont finalement sacrifié une sorte de vie qui aurait été peut-être plus légère pour elle, pour cette idée de gloire. Et surtout, on demande à une femme, à l'époque et encore toujours, d'être plus grande qu'un homme pour être juste elle-même. Je pense que ça continue, je pense que la manière dont on vit, et pourtant on vit dans un des pays les plus, entre guillemets, civilisés du monde, et de toute façon le plus respectueux des femmes, malgré tout, aujourd'hui, c'est encore comme ça.
Le pouvait-elle avoir des existences plus légères, Elsa Morente et c'est Maria
impossible.
Callas
c'est Parce impossible.
Que vous dites, elles auraient dû ou pu, mais le pouvait-elle?
Non, c'est des trajectoires. Donc vous les embrassez ou vous restez en deçà de vous-même. Et ça a de telles exigences artistiques et finalement philosophiques, c'est impossible. Je pense à une femme que vous avez reçue ici, qui était une grande amie, qui est Anne Dufaux-Mantel. Et c'est exactement la femme, l'intellectuelle organique totale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vivait ce qu'elle était et qui était ce qu'elle vivait. Eh bien, ce sont des femmes comme ça qui me donnent un idéal et une route à suivre.
Une femme qui écrivait sur le risque et le désir, Anne Dufour-Mantel, entre autres, et qui portait au plus haut l'idée que l'existence n'a de sens que si on se risque à elle, mais au sens philosophique du terme. Dans les portraits de femmes qui passent dans votre livre, finalement, il n'y a pas qu'Elsa Morente, on retrouve ça. On retrouve l'idée que, certes, une vie, ça se vit, mais il faut être à la hauteur. Et moi, il y a une phrase qui m'a... J'ai dû la relire plusieurs fois et je crois pas que j'en ai exactement trouvé le sens. Il en aurait fallu moins pour être celle que je suis. Il en aurait fallu moins pour être celle que je suis. C'est quasiment la dernière phrase de la première page, Simonetta Greggio. C'est une sorte de trou noir, cette phrase.
C'est un peu comme si vous faisiez du surf avec une bonne planche et que vous êtes pas mauvaise. Et eh ben la vague va être toujours plus grande que vous, un tout petit peu plus grande. Et c'est ces deux filles-là qu'il faut prendre. C'est pas la vague la plus petite ou celle que vous savez déjà chevaucher, ça on s'en fiche. C'est la vague qui vient, c'est celle qui risque de vous plaquer au sol, c'est celle qui risque de vous faire mal, c'est celle qui risque de vous tuer. C'est cette vague-là qu'il faut prendre parce que de toute façon, on va finir exactement de la même manière. Alors autant chevaucher la vague la plus haute possible.
Celle que je suis, donc c'est la première phrase que vous écrivez sans italique, hein, parce qu'il y a quelques notes biographiques qui ponctuent votre roman Elsa, mon amour, pour qu'on s'y retrouve, pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas. Celle que je suis, c'est une sorte de gimmick, parce que la question de l'identité, quand est-ce que je suis née, comment je m'appelle exactement, qui est mon vrai père, quels sont les hommes que j'ai vraiment aimés, qui m'ont vraiment aimée. Là, vous disiez, elle est toujours dans la vérité, mais en fait, le mensonge est omniprésent dans ce roman. La question du mensonge et du secret, c'est omniprésent, Simonetta Greggio.
Mais encore une fois, je vais vous citer Anne qui avait écrit pour son, voilà, Anne Dufaux-Mantel qui a écrit pour son dernier ouvrage une sorte de d'éloge du secret et pourquoi pas du mensonge. Et je suis parfaitement d'accord avec elle et parfaitement d'accord avec Elsa qui vivait une vérité incandescente. Et parce qu'elle était incandescente, la part d'ombre était énorme. Et d'ailleurs, une vie réellement vécue jusqu'au bout, c'était une vie obscure, c'était une vie secrète, c'était une vie mystérieuse, et même mystérieuse à nous-mêmes, parce que on passe la moitié de notre vie à rêver, et où on est quand on rêve?
Ou qui on est quand on rêve?
Où on est quand on rêve?
Il y a plein de régimes de paroles et d'écriture et de langues qui se rencontrent, qui se percutent dans votre livre « Elsa, mon amour ». Je parlais de cette forme d'italique. Elle vient parfois pour les notices biographiques, mais elle vient aussi parfois pour apporter une voix dont vous ne dévoilez jamais exactement qui elle est, dont on sait à la fin du livre par une note que ce sont des traductions de correspondances, de notes, d'ouvrages, de textes d'Elsa Morante. Cette voix-là, qui est sa voix littéraire, son autre voix, vous l'avez fait entrer comment dans la vôtre ? Simonetta Greggio.
C'est elle qui est rentrée. J'ai écrit peut-être 100-150 pages de ses livres. Il était quasiment prêt. Et puis Anne est partie, Anne Dufourmentel est partie. J'ai tout jeté, j'ai tout recommencé en pensant à elle.
En
pensant à elle, oui. Et d'ailleurs, le livre lui est dédié à la fin. Mais sans la citer, mais quand même... Je le sais et on le sait. Et c'est elle, en fait, qui m'a donné cette voix. Je pense que c'était une sorte de magie à ce moment-là. La perte d'un être qui vous fait vivre est quelque chose qui risque de vous faire mourir ou de vous faire vivre encore plus. Et quelque part, ces livres, c'est pour elle. Et c'est elle qui l'a regardé se faire au-dessus de mon épaule.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Far from your loving eyes, among the wind I run, I return to this place, and close my eyes again.
C'est ainsi, François Truffaut, que Jules et Jim, Oscar Werner et Henri Serre, font la connaissance de Catherine Jeanne Moreau. Jusqu'à présent, les femmes n'avaient pas beaucoup compté pour eux et leur amitié était restée intacte de leurs aventures féminines. Celle-là, ils l'aimeront tous les deux tour à tour et leur amitié, pourtant, survivra. Comment expliquez-vous cela, puisque généralement, c'est le contraire qui se produit ?
Eh bien, d'abord, c'est parce que le film est tiré d'un livre qui est un espèce de dommage à l'amitié. C'est un livre qui a été le premier roman d'un vieillard de 74 ans, qui a préféré vivre beaucoup et écrire plus tard. Et c'est tout le pari du film, c'est l'amitié entre ces deux hommes qui aiment la même femme, sera-t-elle plus forte que leur amour ? Et aussi, l'autre question qui se pose, c'est une femme peut-elle aimer deux hommes à la fois ?
Mais Henri-Pierre Rocher, l'auteur du livre, et vous-même, qui êtes l'adaptateur à l'écran, le metteur en scène, est-ce que vous avez voulu montrer un cas exceptionnel, ou bien au contraire, instaurer, je ne dirais pas une nouvelle morale, mais vous inscrire diamétralement à l'encontre de ce que l'on appelle la morale bourgeoise, la morale traditionnelle ?
Je crois que la situation n'est pas absolument exceptionnelle. Elle est même très moderne, ce qui est curieux, puisque le film, lui, ne l'est pas. Je veux dire, l'action se termine en 1935. Ce qui est exceptionnel, ce sont les personnages, parce que, en général, les gens dans cette situation-là agissent avec beaucoup d'hypocrisie, ou en tout cas, une espèce de lâcheté qui leur fait écarter les problèmes, tandis que ceux-là essaient de tout le temps de se justifier par une morale qu'ils inventent eux-mêmes, et qui est d'ailleurs trop exigeante, et qui échoue comme échouerait la morale bourgeoise.
François Truffaut, vous êtes, à mon avis, ce que l'on peut appeler le metteur en scène de la nouvelle vague ayant le plus de sensibilité. Il y a beaucoup de vous dans chacun de vos films, dans Les 400 coups, dans Tirer sur le pianiste. En quoi êtes-vous concerné par celui-ci ?
Évidemment, je dois dire que le sujet de Jules et Jim n'est absolument pas autobiographique en ce qui me concerne, si le roman était, je crois, un peu autobiographique. Mais il y a une chose qui le relie à mes films précédents, c'est un désir de comprendre les motifs des gens, les motifs de personnages qui sont quand même un peu en dehors de la société et qu'a priori le public n'accepterait pas d'emblée si on les faisait aimer en les montrant le plus vivant possible et sous leur, en montrant toutes les qualités, les différentes facettes.
Bon, il faut aller regarder cette archive ina.fr, elle est accessible partout. Mario Benat et François Truffaut sont face caméra, tous les deux assis sur des chaises, extrêmement sérieux et droits, en train de parler de la morale bourgeoise, complètement cependant éclatée par le film Jules et Jim. C'est assez drôle, Simonetta Greggio, on fait entendre cette archive qui date de 1962, peut-être pour aller sur le terrain de la morale bourgeoise ou des amours qui ne concernent pas uniquement deux personnes, peut-être aussi parce que ce scénario de Jules et Jim vous en avez fait la matière d'un précédent livre, mais peut-être aussi pour réagir immédiatement à ce que dit François Truffaut, si j'ai fait ce film, c'est pour comprendre les motifs de ce qui met en mouvement mes personnages. Est-ce que écrire Simonetta Greggio, c'est peut-être pour comprendre les motifs qui mettent en mouvement les personnages ou les êtres ?
Alors c'est drôle, ça me rappelle cette phrase que j'ai détestée, je ne sais plus quel ministre avait dit ça, que comprendre c'est déjà justifié. Mmh. Non, ça n'est pas justifié, c'est juste comprendre. Et c'est ça qui est la chose la plus géniale de cette vie, c'est comprendre qui on est, comprendre qui est l'autre. Et de toute façon on comprend rien, même en essayant de comprendre, on ne comprend rien. Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est jouissif de suivre les péripéties d'un personnage qui n'est pas vous, mais qui est vous quand même, et qui reproduit à la fois les traits de génialité que vous pouvez avoir dans votre vie au quotidien, ou les traits de bêtise absolue que vous pouvez avoir, et regarder de ça finalement avec une sorte de distance qui est celle de la création, c'est de la fatigue de la création même, c'est reconstruire la vie tout en restant assis sur ce fauteuil à côté d'une cheminée, c'est quand même pas si mal hein.
Et pouvoir l'observer parfois d'un tout petit peu plus loin qu'on observe sa propre existence lorsqu'on est complètement plongé dedans, notamment l'amour parce que Jules et Jim, il est question de ce triangle amoureux dans votre roman Elsa mon amour, dès le titre il est question d'amour et il ne va être question pas que de cela, d'ailleurs je disais la place très importante de l'amitié, mais quand même dans l'amitié il est question d'amour. Il me semble que vous regardez tout ce monde-là s'aimer, se désaimer, se trahir, se décevoir, alors peut-être près de votre cheminée, mais comme ça, avec la distance que permet la littérature.
Oui, parce que comme j'ai fait un peu une pause dans les garçons les derniers temps, parce que j'ai un peu arrêté pendant un petit moment, je regarde ça un peu comme si j'avais 90 ans, et j'ai l'impression...
C'est exactement ce que ça m'a fait, comme exactement, avec un petit poil de sagesse. Quoi. Bon, alors attends, comment ça se passe là? Comment il se déchire?
Quand on est moins la main dans le pot de confiture, on peut regarder ça avec un peu plus d'humour et avec un peu plus de distance. Et ça fait du bien parce que toute ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir été brûlée par les mariages, les amours, les amitiés même qui sont très incandescentes. J'ai l'impression d'être toujours amoureuse de mes amis, femmes ou hommes, et de ne pouvoir que être amoureuse d'eux parce que sinon c'est pas la peine. Sinon, je les aime pas de cet amour d'amitié qui m'est si cher. Sinon, pour être tiède, il y a des tisanes. Enfin, c'est pas la peine. Donc, ayant fait une toute petite pause, cette Elsa, mon amour, était parfaitement tombée au bon moment et à la bonne place, avec cette Elsa qui regarde derrière elle en disant « Bon sang, mais j'aurais dû donner plus !» alors qu'elle a déjà donné tout ce qu'elle avait dans le coffre. Et ben moi, je me disais la même chose, mais sans avoir qu'entre 90 ans, donc je pense que je vais peut-être reprendre les garçons bientôt, mais pour l'instant, c'était très bien de faire cette pause.
D'ailleurs, ce titre... qui n'a pas de virgule, mais qui a un petit espace et qui pourrait presque, on pourrait presque les espacer encore plus, ces mots-là. Elsa, mon amour. Comme si c'était aussi un livre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que d'aimer moi en tant qu'auteur? Où est-ce que j'ai mis mes brûlures? Où est-ce que j'ai mis mes amours? Où est-ce que j'ai, quelles traces j'ai suivies? Comme si Elsa Morantes était aussi une possibilité de regarder votre propre existence, Simonetta Greggio.
Il y a un excellent écrivain qui a inventé un jour un philosophe qui n'existait pas pour qu'il écrive sa propre vie.
Pratique.
Voilà. Et je pense que j'ai un peu fait la même chose, sauf qu'Elsa existe. Et non seulement elle existe, mais avant de me mettre à écrire, je lui ai demandé pardon, déjà d'écrire à sa place. Et puis je lui ai demandé de m'aider à écrire avec le souffle que je lui demandais. Parce que évidemment que c'est moi.
Il y a un chapitre qui dit ça à la fin, hein, d'ailleurs, enfin, qui s'amuse avec ça à la fin.
Voilà, je suis elle, mais elle n'est pas moi, et de toute façon, je ne serai jamais elle, et elle n'a jamais été moi. Mais quoi qu'il en soit, quand on écrit d'où ? Qui on est quand on écrit ? Comme quand on rêve.
Où est-ce qu'on est quand on rêve et qui on est quand on écrit ? Je n'étais pas une femme quand j'ai connu Moravia, pas tout à fait. Une large bouche, des yeux tour à tour verts, violets, indigo, des dents effilées, minuscules, aux incisives largement écartées, un menton comme un poing d'enfant, des cheveux en poils de loup un peu gris déjà, que je tressais parfois, auxquels je mêlais des feuilles, des rubans de soie, de velours torsadé, un corps qui n'avait gardé de mon souhait d'être danseuse que la fébrilité des membres, muscles vibrants sous la peau, une minceur quasi diaphane à force de manquer de nourriture, des vêtements composés de châles superposés, de jupes lourdes couleur de rouille sentant l'antimite, d'antiques chemisiers achetés pour quelques sous dans les marchés, des bijoux fantastiques fabriqués avec des fausses pierres précieuses et des fleurs séchées. Voici l'Elsa de cette époque. Mignonne sorcière, créature vomie par l'enfer, en route pourtant, du moins le croyais-je, pour le paradis. Je fabriquais des objets magiques avec des plumes et des coquillages, assemblages que j'enveloppais dans des pièces de tissu, les nouant à l'aide de faveurs et de ficelles de cuir. Au cœur, des mots éparses pour demander des bénédictions ou envoyer des maléfices. J'adorais faire l'amour. La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. Mais la mémoire du désir a ceci de singulier, n'est-ce pas mon beau ? On sait qu'on a convoité quelqu'un à s'en taper la tête contre le mur, mais on ne retrouve pas trace de ce désir. Comme si cela n'avait jamais existé. Et on ne sait plus pourquoi on a failli ne pas s'en relever. On dit qu'une femme intelligente est un plaisir de pédéraste. Ce que l'on dit moins, c'est qu'un homme beau, pour une femme intelligente, c'est pareil. Par une étrange pudeur, et pour que le sexe fort n'en prenne ombrage, cela se tait. Mais j'en sais quelque chose. Moi qui ai convoité la beauté masculine à m'en assécher l'eau dans la bouche, moi qui n'ai jamais été mère pour ne pas être ma mère, moi qui suis un garçon, Antonio, et plus tard Arturo, mon faux père Augusto, homosexuel non déclaré, était amoureux de moi, mais non de mes frères. Je ne suis Elsa Morante que dans mes papiers d'identité. Au fond, Simonetta Greggio, on l'entend dans cet extrait d'Elsa, mon amour, elle est qui elle veut. En tout cas, vous en faites une femme, dans votre roman, peut-être pas la Elsa Morante dans la vie, qui est qui elle veut.
Mais elle est comme ça, elle est totalement fluide. C'est une femme qui est dans son corps de femme, qu'elle aime, surtout quand elle se sent légère et donc... quand elle manque de nourriture, quand elle danse, quand elle, à un moment donné de sa vie, elle ne mangeait plus comme son grande amie Leonor Fini, elle ne mangeait plus que des tomates et tous les deux, trois jours, un peu de mozzarella. Donc elle était devenue super fine, elle s'habillait un peu comme les existentialistes en noir, avec des cols roulés, avec un peu de pantalons noirs de Zazou, elle était super jolie. Et elle était très délicate. D'ailleurs, il y a l'un de ses amants qu'on n'a jamais connu. On n'en sait pas du tout son identité. Il lui écrivait des lettres, mais absolument, mais passionnelles, brûlantes, magnifiques, sur son corps, sur ses mains, sur ses petits pieds. Et il dit à la fin, j'aimerais, puisque tu ne veux pas de moi, j'aimerais une femme qui a des grands pieds, ça sera tant pis pour toi. Mais en même temps, il la menace, en même temps, il agresse, en même temps, il lui donne tous les noms de la terre et du ciel, surtout d'oiseaux. Donc, cette Elsa était qui elle voulait, mais parce qu'elle était tout ça. Parce qu'elle était un homme, parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était un garçon, parce qu'elle était... elle avait une sorte d'amour homosexuel pour les garçons homosexuels. Donc, c'était un peu compliqué, son histoire, tout de même. Mais une espèce... Est-ce que... Enfin, je sais pas, c'est des hormones magiques. Je sais pas ce qu'elle avait. Elle avait une poudre magique qui lui permettait d'être totalement fluide. Et c'est ça que je trouve incroyablement aussi vraiment d'actualité dans ce qu'elle raconte, c'est cette opposition qu'elle fait de tout son corps, de tout son esprit à être quelque chose qu'on lui dit qu'il faut être, surtout mère. Elle n'a vraiment pas voulu être mère, et je la comprends très bien. J'ai beaucoup discuté de ça avec des amis philosophes ou psychanalystes, etc., parce que j'ai eu la même chose dans ma vie. Je n'ai pas voulu être mère, et c'est très difficile à expliquer. Et la seule chose que je puisse dire en ce qui me concerne, mais peut-être en ce qui concerne Elsa, c'est parce que.
C'est-à-dire, en tout cas, pas parce que vous allez me demander de l'expliquer.
Exactement. Exactement, parce que je peux l'expliquer jusqu'à demain sans me convaincre et sans convaincre personne. Mais ce que je sais au fond de moi, c'est comme ça. Pourquoi ? On ne sait pas.
Ce chapitre commence par l'idée selon laquelle elle n'était pas exactement une femme lorsqu'elle rencontre Moravia, Alberto Moravia, avec qui elle va être mariée. Il existe dans ce livre, mais finalement pas autant qu'elle et peut-être pas autant que d'autres et pas autant que dans la légende, pas autant que dans sa fiche Wikipédia. Il y a quelqu'un qui existe un peu plus auprès d'elle qui s'appelle Bill, qui est un peintre américain. Enfin, j'ai deviné que c'était lui, un amant dont la mort l'a laissé avec la plus grande tristesse et dont la présence est plus
tangible.
Ouais, plus tangible, plus comme une étoile présente, en tout cas beaucoup plus forte que celle de Moravia à côté de laquelle elle est toujours accolée.
Alors d'abord Moravia, moi je l'ai connue juste vraiment à la fin de sa vie. J'avais fait la dernière interview parue en France pour Télérama ou pour qui je travaillais à l'époque, et donc je l'ai vue vraiment à 3 mois de la fin de sa vie, et c'était un type formidablement intelligent, très charmant encore, et qui m'a fait une cour pas possible. Les deux jours où je l'ai interviewé, aujourd'hui ça serait du harcèlement peut-être, mais à l'époque je trouvais ça un peu mignon et un peu adorable. Ces vieux messieurs qui finalement étaient toujours
aussi. Ça devait pas être du harcèlement si c'était mignon et adorable.
Moi je trouvais ça vraiment très très mignon. Après c'est vraiment très compliqué tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc j'ai compris un peu ce que voulait dire Morante avec Moravia. C'était pas un amant. C'était quelqu'un qui était trop froid pour être un amant, de par sa propre vie. Et elle était follement attachée à qui ? À Bill. Bill qui avait 23 ans quand il est mort. Bill qui a été soit jeté d'un gratte-ciel de New York, soit qui s'est jeté d'un gratte-ciel de New York. Bill qui était homosexuel, qui était plus beau que tous les plus beaux hommes que j'ai jamais vus de ma vie. J'ai vu des photos de lui, mais Alain Delon à côté, c'est vraiment ma brusquette, c'est vraiment rien. Et c'est drôle parce que cette Elsa était si amoureuse de lui, et en même temps, c'était son fils. C'était le fils qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle a tant aimé. Donc c'est là où finalement tout se mélange, tous ces amours, toutes ces amitiés, tout cet amour perdu pour elle-même, pour le corps de jeune femme qu'elle avait, le corps de jeune homme dans lequel elle aurait voulu être. Donc tout ça, on pourrait écrire encore plusieurs livres sur Elsa et on n'aurait pas fini d'en parler très profondément.
Parce que je parle de la présence de Bill comme une étoile persistante, parce que parfois votre voix d'écrivain s'adresse à lui en le tutoyant, en le convoquant, mais en fait aussi comme un petit oiseau mort parfois, comme un enfant mort parfois. Il y a quelque chose de sa voix qui devient autre lorsqu'elle s'adresse à Bill, si bien que quand on ne connaît pas la notice biographique d'Elsa Morante, c'est une présence très étrange pour nous lectrices et lecteurs, ce Bill.
Je pense que toutes les voix d'Elsa sont des voix de schizophrène, mais chaque écrivain est schizophrène, sinon il ne pourrait pas faire ce métier. Donc, de toute façon, toutes ces voix sont celles de ses journaux, de ses romans, de ses différents romans, de ses nouvelles, de celles qu'elle était dans les journaux ou dans les critiques. Elle était grande critique cinématographique aussi. Donc, Bill est l'une de ses voix. Et elle est devenue telle, une fois que Bill s'est suicidé ou est mort. Et pour Elsa, c'est comme si cette voix avait pris encore plus d'importance en elle-même. La voix du fils, la voix de l'amant, la voix du garçon qu'elle aurait voulu être.
E come fa un uomo così piccolo ad essere così forte, ad essere così? E come fa un gesto così timido ad essere così libero? Come farà? Dov'è che va? farcela, come si fa se non si può sorridere, se l'aria si fa spessa, se il tempo sembra cedere. Dov'è che va il pianto quando non è qua a liberare l'anima o chissà. Vado giù, vado giù, vado giù a nascondermi e non lo so mica perché, forse per rimanere un po' sola con me, per parlare con me. Vado giù, dove trovo la musica quando non c'è, cosa illumina l'anima dentro di me, devo andare a vedere giù in fondo che c'è. Vado giù, dove trovo la musica quando non c'è, cosa scritto l'anima dentro di me, devo andare a vedere giù in fondo che c'è. Vado giù, per difendere quello che resta di me, per sorprendermi a scrivere versi per te, per tornare a sorridere.
J'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire, mais comme toujours, l'acte d'écrire peut prendre différents masques, différentes valeurs. Il y a des moments où on écrit parce qu'on pense participer à un combat, ça a été le cas, disons, dans les débuts de ma carrière d'écrivain ou d'écrivant, et puis peu à peu se dégage finalement la vérité, une vérité plus nue, si je puis dire, c'est qu'on écrit parce que, au fond, on aime cela et parce que ça fait plaisir. C'est donc finalement pour un motif de jouissance qu'on écrit, ce qui ne veut pas dire que dans cet acte de jouissance, on ne rencontre pas d'autres motivations et disons qu'on ne rencontre pas d'autres débats et qu'on ne rencontre pas tout simplement les autres.
Une archive de 1975, la voix de Roland Barthes sur l'acte d'écrire dans l'émission Radioscopie, Simonetta Greggio, parce qu'on le disait tout à l'heure, finalement c'est aussi une manière d'écrire avec ce livre Elsa mon amour, où Elsa Morante tient une place énorme, d'écrire un livre sur une personne en train d'écrire des livres, et vous-même êtes écrivain en train d'écrire un livre, enfin c'est-à-dire c'est infini cette mise en abîme avec toutes ces personnes qui écrivent, Moravia, Pasolini, les lignes de votre livre sont peuplées de personnes qui écrivent quoi, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre des réflexions là-dessus.
Oui, c'est ce miroir brisé, c'est tellement fantastique, j'ai fait le compte l'autre jour, je crois que j'ai lu entre 15 et 20 000 livres dans ma vie, parce que j'ai commencé très tôt, comme Elsa. La première fois que j'ai eu un livre dans les mains, je trouvais que c'était juste, je savais pas lire. Donc, j'ai regardé ce livre et je me disais, je suis sûre que là-dedans, il y a des tas de choses que j'aime, mais je sais pas trop, je le tenais à l'envers et tout ça. Mais ma mère, comme la mère d'Elsa, comme la mère de beaucoup d'écrivains, femmes, m'a appris à lire et à écrire très très tôt. Et finalement, c'est elle qui m'a ouvert cette voie, comme la mère d'Elsa avait ouvert la voie de l'écriture à sa fille, une voie qui était déjà là bien sûr, mais qu'il faut réveiller, à laquelle il faut donner de la puissance. Et comme Colette, comme Elsa, ce qui m'est arrivé est une sorte de, je ne sais pas comment dire, de témoin de passage qu'une femme d'une génération donne à une autre femme de la génération suivante pour ouvrir sa bouche, quoi, pour s'exprimer, pour dire ce qu'une femme doit dire pour exister.
Dans la transmission, on a assez peu parlé de la figure de cette mère institutrice juive sur la question de la transmission. Justement, qu'est-ce qui passe, puisque vous disiez tout à l'heure qu'elle était dans un dialogue pas toujours très évident avec sa féminité. Qu'est-ce qui passe de cette femme mère à cette femme écrivante Elsa Morante qui décide de ne pas l'être pour ne pas être sa mère, si je reprends vos mots?
Il y a une page que j'ai écrite dans Elsa Mon Amour qui est une page qui relate un rêve de Elsa Morante, dont je retrouvais une sorte de trace un peu bizarre dans l'un de ses cahiers, l'un de ses journaux. Et en fait, ça ressemble bigrement à un rêve que j'ai eu moi-même, où j'étais sur les épaules de ma mère, j'étais aveugle, et c'était elle qui me portait, qui me menait, qui me conduisait, qui m'ordonnait la route. Et c'est curieux d'avoir ces...
Antigone et Oedipe.
C'est voilà. Et puis c'est les fous conduisant les aveugles. Enfin, c'est très... Dans ce passage de féminité et d'écriture et d'expression, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la, du passage de la poudre magique. Et dans ma famille, il y a eu, j'étais la seule fille, j'ai trois frères, j'adore. Mais dans la génération suivante, il n'y a que des filles et un seul garçon. Et je me dis que le garçon a été en plus élevé par une mère féministe, chose que j'adore parce que chez moi, ça vient de très loin. Le machisme vient très très loin, vient de papa et de sa mère avant mon père. Et toutes ces filles... C'est des graines de rebelles, qu'est-ce qu'elles me plaisent.
Dans l'archive, on entendait Roland Barthes dire au départ, on croit qu'on écrit pour embrasser un combat, pour être dans une forme de lutte avec la littérature ou des luttes peut-être plus concrètes. Et puis avec le temps, on se rend compte qu'on écrit pour son plaisir, voire pour sa jouissance. Il se trouve qu'à chaque fois que, il me semble, le mot jouir devrait arriver dans votre texte, Simonetta Greggio, il est remplacé par des croix.
Et oui, parce que c'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. Vous savez qu'on m'a même demandé s'il n'y avait pas un problème à une petite coquille.
Oui, mais enfin, elle est répétitive, la coquille.
Voilà.
Il faudrait quand même se rendre compte.
Mais on s'est dit, c'est bizarre. Mais pourquoi elle a tellement de problèmes avec ces mots? Non, c'est Elsa. C'est dans les cahiers d'Elsa. Elle mettait des petites croix quand il fallait utiliser ce mot, jouissance, jouir. Et je pense que pour elle, c'était tellement fort qu'il ne fallait pas qu'elle en parle même à elle-même. C'était une femme tellement vivante que... vivre comme ça fait peur parfois. C'est une telle plénitude qu'on risque de se casser la figure tous les jours.
Ça rejoint la nécessité de l'obscurité, de la vie secrète, de la vie parfois même obscure à soi-même lorsqu'on veut la vivre absolument et entièrement.
Je pense que ça rejoint l'idée de solitude, ce qui était son idée la plus profonde. Elle a passé sa vie à être seule malgré le fait que sa vie ait été habitée par tant d'amour et tant d'amitié. Mais finalement, elle est morte vraiment seule.
Merci beaucoup, Simonetta Greggio, d'être passée nous voir. Elsa, mon amour est publiée aux éditions Flammarion et je rappelle qu'il fait partie, ce livre, de la sélection de rentrée France Culture Lops.
Merci beaucoup.
Au son ce soir, c'était Jean-Guilain Meige à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h, mais aussi tout le week-end et quand vous voulez sur franceculture.fr et au podcast, vous pouvez vous abonner. Je remercie Jeanne Aléos, Laure Chastan, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission. Et je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.